Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Il s'appelle McClure, il a 26 ans, il danse, il anime des soirées africaines et il a même fait un passage à Disneyland. Il présente aussi la météo sur TV5. Il est aussi beau que son nom en or le laisse supposer, mais derrière sa façade de showman, au fond de ce cœur de jeune homme, se cache une histoire on ne peut plus romanesque, triste et gaie, celle d'un enfant abandonné, puis adopté et ensuite repris par sa mère, un élève brillant, mais mis sur la touche, sans père ni repère, au bord de la maltraitance comme dans un roman de Victor Hugo ou une tranche de vie bien saignante, signée Émile Zola. McClure est né en France d'un couple venu du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Plus tard, son père sera ministre dans le gouvernement de Mobutu avant d'être connu pour la société congolaise de fabrique de meubles qu'il a créée. Sa mère est issue d'une riche famille zaïroise. Enceinte, elle décide d'aller à Paris, seule et sans papier, pour accoucher et élever son enfant à venir. McClure est donc l'enfant de cette union et c'est une partie obscure de sa vie, une part d'enfance laissée béante, qu'il raconte tout de suite sans phare, quelques semaines à peine après la mort de sa mère. Et c'est un reportage signé Sophie Knapp.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je me suis toujours dit que tout le malheur que j'avais pu avoir se retranscrirait un jour d'un point de vue bonheur. J'avais tellement fait de choses qui ne me plaisaient pas que là, je voulais juste pour une fois avoir l'opportunité de faire ce que je voulais faire et là, la porte était grande ouverte. Donc j'en parle à ma mère et là, c'est le drame pour elle parce que comédien, chanteur, danseur, ce ne sont pas des métiers. Et c'est bien là que j'ai senti l'amour. C'est-à-dire qu'au-delà même de sa déception, elle a payé les frais d'inscription. Je suis resté 2 ans dans cette école, une sorte de fame à la française où on dansait, on chantait et on faisait la comédie. Donc vraiment tout ce à quoi j'aspirais, où j'ai eu la chance d'être très très vite pris sur des spectacles. Donc j'avais la chance de pouvoir vivre de ce que j'aimais, quoi. Je trouvais ça formidable. Bonjour ou encore bonsoir selon l'hémisphère du globe où vous vous trouvez. Je suis heureux de vous accueillir sur TV5 Monde pour vous présenter ce nouveau point sur le ciel qui, j'espère, vous sera favorable. Alors, ils se sont rencontrés sur les bancs de l'université. Ils étaient tous les deux issus de la bourgeoisie congolaise. Et dans beaucoup de ces familles-là, les enfants étaient envoyés en Europe pour faire leurs études. Donc eux, ils se sont rencontrés en Belgique. Et voilà, ma mère est tombée amoureuse folle de mon père. Et elle a tout fait pour faire en sorte de pouvoir le garder. Et ça passait aussi par le fait d'avoir un enfant. Elle pensait que voilà, peut-être que ça le retiendrait près d'elle. Mon père lui avait proposé de l'aider si elle voulait se faire avorter. Elle a toujours refusé, c'est vrai qu'elle était très pieuse et ça s'opposait un peu à sa foi, on va dire. Donc mon père, lui, est rentré au pays et ma mère s'est retrouvée donc enceinte. Son visa d'études avait expiré, donc elle se retrouvait seule, sans papier. Et c'est là qu'elle a décidé de descendre à Paris. Et c'est là qu'elle commence à fréquenter le milieu africain et congolais, mais un peu le côté dark side, on va dire. Des personnes qui vendent de la drogue, d'autres qui font du trafic. Ça a été le début pour elle, à mon avis, d'une mauvaise passe. Ce qui fait qu'elle a accouché, elle a vécu toute cette période de galère-là. Et après cette période de galère-là, elle a décidé de me confier à une association dont le seul but de pouvoir, elle, se remettre à flot. C'est-à-dire vraiment voilà, trouver un emploi, un logement et puis m'offrir la stabilité, quoi.
Comment a-t-elle choisi ce prénom McClure ?
McClure, ça venait comme quoi elle était toujours, je dirais pas amoureuse, mais elle se sentait toujours proche de mon père, puisque mon père s'appelait Makengele, donc elle a gardé Mac, elle a rajouté l'or, donc voilà la pierre précieuse, et voilà ça aussi, je pense que c'était un immense signe d'amour, et je sais aussi que dans le dialecte lingala, ça signifie aussi cœur de feu. Alors moi, il faut savoir que j'étais un enfant très perturbé, qui était mal dans sa peau, donc je pleurais énormément, je piquais des colères extrêmes. Et voilà, je suis passé par 4 familles d'accueil avant d'arriver en Bretagne. Et voilà, cette famille d'accueil qui, elle, a tenu bon. Ils avaient adopté 5 enfants. Il y avait 3 enfants biologiques à eux. Et on avait des enfants en transition. Donc, c'était une famille d'accueil, donc des enfants en transition. Donc, on se retrouvait à des tablés de 11 des fois. Eux pensaient initialement m'avoir pendant 6 mois. Donc, c'était vraiment la date qui avait été fixée par ma mère biologique. Ce laps de temps-là qui lui était apparti a été perdu en quelque sorte puisqu'elle s'est retrouvée en prison durant voilà ces 6 mois-là. Donc du coup, je suis resté dans cette famille d'accueil de 16 mois à 18 ans.
Ces gens-là, finalement, très rapidement, vous les appelez papa-maman ?
Oui, je les appelle très rapidement papa-maman. Du moins, je sais que pendant les 6 premiers mois où je suis arrivé là-bas, ils ont toujours fait en sorte qu'il n'y ait pas de réel attachement. Ils savaient que je serais amené à partir. Mais le fait est que voilà, le lien qui ne s'est pas créé pendant ces 6 premiers mois de vie avec eux n'a jamais réussi à évoluer.
Et donc eux, comment ils vous appelaient ?
Ils m'appelaient Maclore au début, avant que ne leur vienne l'idée de changer mon prénom. Donc je me rappelle que j'avais 9 ans, 9 ou 10 ans. Et je me rappelle de me montrant plusieurs prénoms. Et moi, je voulais un prénom très classique, c'est-à-dire que c'était Nicolas, Pierre, Simon. Et donc, moi, je voulais m'appeler Stanislas. C'était le prénom que je voulais avoir. Et non, eux ont choisi Narcisse. Ce prénom, déjà, je l'ai mal vécu. Et d'ailleurs, je faisais en sorte que tout le monde continue à m'appeler Maclore et non Narcisse. Dans ma famille d'accueil, c'était vraiment compliqué. C'était aussi le fait qu'ils diabolisent ma mère, quoi. Elle était en prison, donc ils insistaient bien sur le fait qu'elle était en prison. J'en avais une peur bleue. Et des fois, quand je faisais des bêtises ou même quand je n'en faisais pas, ils me mettaient la pression en me disant qu'un jour ils me renverraient chez ma mère en prison, qu'elle me taperait dessus. Ils avaient créé une sorte de fantasme macabre autour d'elle qui m'a terrorisé.
Votre mère, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle vous écrivait de temps en temps ?
Ma mère m'écrivait et ça aussi, avec le temps, je me suis rendu compte de la force qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle a fait beaucoup de prisons. Elle a fait Fresnes, Fleury-Mérogis, Bourges. Et toujours, à chaque anniversaire, un cadeau fait à la main. Je me rappelle qu'elle m'envoyait des tissus de soie brodés avec son parfum, avec Maclore inscrit dessus. Et moi, je lui l'ai renvoyé en disant que je ne l'aimais pas. Tout ça sous l'égide de ma famille d'accueil. Je me rappelle aussi la voir au téléphone et puis lire ce que mes parents de famille d'accueil me demandaient de lire. Et elle avait vraiment une force exceptionnelle puisque l'année d'après, elle me renvoyait un courrier avec des cadeaux. Enfin, elle a jamais cessé d'être là pour moi durant toute mon enfance.
Votre famille d'accueil préparait un texte pour que vous le disiez au téléphone. C'était quoi ce qu'ils avaient écrit ?
Je me rappelle que, en fait, leur phrase, c'était qu'en fait, elle se servait de moi parce qu'elle avait un enfant sur le territoire français, pour ne pas être expulsée. Qu'elle se servait de moi, qu'elle ne m'aimait pas. Et ce qui est fou, c'est que je ne sais pas si elle ressentait ma détresse, mais elle le savait.
C'était dû à quoi, cette détresse ?
C'était dû à des différences qu'il faisait entre les enfants adoptés et moi. Je me rappelle de mes frères et sœurs adoptés qui avaient des chambres high-tech avec chaîne Hi-Fi, télé. Et moi, j'avais vraiment la petite chambre de bonne. Et il y a quelque chose qui faisait et qui révèle là aussi de la folie de leur part. C'est que quand les assistantes sociales venaient, pour savoir comment j'allais, comment ça se passait, je me rappelle d'eux recouvrant mes murs de posters, m'emmenant voilà, des poupées, des nounours. Et voilà, pendant 2 heures, on va dire que j'étais un enfant comme les autres. Et puis dès que ses assistantes sociales la repartaient, il reprenait tout.
«
Moi, je sais qu'il y a eu une négligence totale, ne serait-ce que dans les règles d'hygiène. Je sais que j'ai très vite dû me débrouiller tout seul. Je vous expliquais tout à l'heure que j'avais des dreads. C'était pas pour le style, hein, c'était parce que les parents de ma famille d'accueil avaient simplement la flemme de me coiffer ou de me démêler les cheveux. J'ai pas de souvenir de ma maman me lavant avant d'aller à l'école. Je faisais tout seul. J'ai eu l'impression de m'être éduqué seul. Pour les devoirs, je me suis aussi toujours débrouillé tout seul.
Mais un enfant, pour grandir, il a besoin quand même d'un peu de tendresse. Vous le preniez où, ça?
À la tendresse, je la prenais partout ailleurs. J'appelais mes profs féminines mamans. Pour moi, c'était des mamans de substitution. Marie-France Beaugendre, Véronique Peloual, Viviane Chérel, Nicole Saurin, Françoise Ravary, Yvonique Le Tourneur, je me rappelle de tous leurs noms. Madame Larvor, de tout, Madame Burguin, tout ont énormément compté pour moi. Et c'est rigolo parce que je fais aussi un parallèle. Le fait d'aimer mes professeurs féminines me forçait à être un bon élève. J'aurais eu trop peur de les décevoir comme j'aurais eu peur de décevoir ma mère. Aussi, j'ai toujours eu beaucoup de copines. Ça aussi, je prenais beaucoup d'amour. Je restais pas le mercredi avec la famille, on m'envoyait au centre aéré. Et là, je me rappelle que les animateurs, en plus, me prenaient en affection. Je me rappelle aussi d'une fois, ça me revient, il y avait une sortie au parc Bidibule d'organiser et que mes parents ne voulaient pas débourser, les parents de ma famille d'accueil ne voulaient pas débourser d'argent pour que je puisse y aller et que les animateurs s'étaient cotisés pour me payer cette journée-là. Et c'est pour ça que je me dis, j'ai toujours su que ma famille d'accueil ne m'aimait pas, mais j'ai toujours su qu'à côté, il y avait des gens qui m'aimaient et qui me le montraient. J'ai eu un amour qui s'appelait Margot, que je trouvais belle, intelligente. Et donc, on est devenu... Je me suis servi de l'amitié pour l'approcher. Je sais qu'elle aimait ma singularité, déjà, le fait d'être black, alors qu'il n'y avait que des blancs. Puis j'avais une manière de penser, d'évoluer, qui était un peu différente de celle des mecs de son âge. Et ouais, je me confiais beaucoup à elle.
Et donc, elle, comment elle percevait ce que vous viviez?
Elle sentait qu'il y avait un réel souci. Et puis, je me rappelle, c'est-à-dire qu'elle m'appelait. Mes parents étaient insupportés par l'idée qu'on puisse prendre de mes nouvelles aussi. Je me rappelle que quand des amis appelaient à la maison, c'était pas possible. On fait que d'appeler pour toi, c'est pas possible. Je pense que ça les énervait qu'on puisse m'aimer ou m'accorder de l'importance. Et je me rappelle que ma mère l'appelait vulgairement la salope. Rien que là, ça dénote quelque chose d'assez fort puisqu'on avait quand même 12-13 ans à l'époque. 12-13 ans. Et elle l'appelait, ouais, c'est la salope au téléphone. Vraiment une marimatronne. Enfin, j'ai pas de mot pour désigner comment elle était.
L'été, comment ça se passait, les vacances ?
Les vacances, c'était affreux. C'était vraiment affreux. Enfin, affreux, non, parce que c'était vraiment bizarre. C'était affreux humainement. J'ai été traité différemment des autres enfants. C'est-à-dire que ils étaient constamment sur moi. J'étais puni pour tout et n'importe quoi. Alors que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, vu qu'ils avaient, racheté un camion de manouche qu'ils avaient entièrement refait. Donc du coup, on partait, ils avaient un élevage de chiens, puis donc on partait avec les chiens, les 10 enfants, dans ce grand camping-car-là qui était peint en vert et violet. Et on a beaucoup voyagé, notamment en Afrique du Nord. Donc je connaissais mieux le Maroc à cette époque-là que la France. Mais j'y allais avec la peur au ventre. En plus, j'ai souffert d'énurésie pendant longtemps. Donc j'ai fait pipi au lit jusqu'à assez tard. Et donc ça aussi, c'était problématique. J'avais une tente à la fin à l'extérieur du camping-car où les gens dormaient dans le camping-car. Moi, je dormais dans une tente à l'extérieur sous prétexte que je faisais pipi et que du coup, les odeurs ou... alors que voilà. Puis eux aidaient. J'ai jamais compris ce paradoxe entre ce que je vivais et puis ce que je pouvais voir d'eux. C'est-à-dire qu'ils partaient dans des villages paumés au Maroc. Ils arrivaient avec des stylos, des vêtements. Et j'ai jamais compris, je n'ai jamais saisi ce paradoxe-là entre le si peu d'amour qu'ils pouvaient m'apporter et cet amour qu'ils donnaient à des inconnus.
Est-ce qu'à un moment donné, ils ont fait référence à votre origine africaine, à la couleur de votre peau?
Jamais. Non, jamais. Je pense qu'ils étaient dans un schéma de se créer une sorte de famille fantasmée comme ça, avec des enfants de tous les pays, où on voyagerait à travers le monde. Et je pense que ça rentrait dans ce fantasme-là, le fait d'avoir un noir, un brésilien, un enfant du Bangladesh, ça passait aussi par ça. Mes parents avaient décidé de me coller en pré-apprentissage. Donc j'avais 14 ans et demi, donc de me coller en CAP hôtellerie-restauration. Je me rappelle du conseil de classe où mes profs s'insurgeaient qu'avec les notes que j'avais, on me colle en pré-apprentissage, puisque j'ai dû terminer la troisième avec 16 ou 17 de moyenne. Je pense que c'était aussi une manière de me briser. Voilà, me faire faire un CAP hôtellerie-restauration, c'était me ramener là où ils voulaient que je sois. Ne pas trop réussir. Donc après le CAP, j'ai fait une année, j'ai fait une année de BEP, puis une année de bac pro. Et durant mon année de bac pro, c'était ma 18e année, je prends contact avec ma mère qui m'a laissé son numéro de téléphone dans un courrier et je lui dis que j'ai envie de la voir. Donc elle est émue aux larmes, elle me remercie, merci, merci, et puis merci Seigneur aussi, très pieuse. Elle me dit je te dirai tout, je ne te mentirai pas, je te dirai tout. Et là, je décide de quitter la Bretagne pour aller vivre avec ma mère biologique que je n'ai jamais rencontrée. Et donc, je suis parti. J'ai dit à ma famille d'accueil qu'elle ne me reverrait plus jamais et que je ne lui pardonnerai jamais le mal qu'ils avaient pu me faire. J'ai maintenant 26 ans. On ne s'est jamais revus.
Donc, vous décidez à 18 ans de retrouver votre mère biologique. Vous arrivez à Paris. Comment se passe cette rencontre à la gare Montparnasse ?
En fait, elle est venue me chercher à la gare, et puis je l'ai vue au loin. C'était très spécial. D'abord parce que je la découvrais physiquement, choqué par une ressemblance, parce qu'on se ressemble beaucoup. Et puis elle, tout de suite, elle me fait un câlin. Et puis moi, j'étais très mal à l'aise parce que déjà, je n'en avais pas eu dans ma famille, donc j'étais très pudique quant aux câlins, aux marques d'affection physique, donc j'étais un peu mal à l'aise. Et elle, aucune gêne, quoi. J'étais son bébé, quoi. Elle était une femme bien portante, impressionnante, charismatique. Elle était assez grande pour une femme. Elle devait mesurer 1m73. Et gentille, vraiment gentille, bienveillante. Et puis, j'ai tout de suite senti l'amour, quoi.
Donc, vous allez habiter chez elle. Comment ça se passe ce premier soir dans son appartement ?
J'étais mélancolique. J'étais mélancolique parce que, qu'on le veuille ou non, j'ai vécu pendant 18 ans dans cette famille. Déjà, ils me manquaient. Chose improbable. Je pensais à eux, quoi. J'aurais eu une totale sensation de bonheur si je sentais mon amour pour elle. J'aurais aimé l'aimer plus lui le montrer, mais je réussissais pas parce que ça ne restait qu'une inconnue. Avec qui je partageais le sang. Il n'y avait rien de plus. Je crois que je l'ai appelée maman, mais pas naturellement, pour lui faire plaisir. Parce que je sais que ça lui aurait brisé le cœur que je l'appelle maman Jackie ou Onéma.
Elle n'a pas du tout reconstruit de vie de couple, de projet, d'enfant ?
Non. Non. C'était inconcevable pour elle d'avoir un autre enfant alors que le sien était ailleurs. Et puis elle voulait pas d'enfant de substitution. Par contre, elle, ce qu'elle voulait, c'est que je trouve vite une Congolaise pour faire un enfant. Elle me disait, non, mais il n'y a pas de souci, moi, je peux l'élever. Et donc, ça aussi, je pense que c'était une manière de rattraper quelque chose.
Donc, elle vous a fait rencontrer des femmes ?
Non, mais je sais qu'elle me ramenait souvent à des réunions. En fait, des réunions où elle se retrouve entre Congolaises. Et puis, il y avait des filles de mon âge qu'elle me présentait toujours, avec, à mon avis, une petite idée derrière la tête. Mais bon, je ne l'évoquais jamais de manière directe avec elle.
Donc, quand elle vous emmène dans cette communauté africaine toute nouvelle pour vous, comment elle vous présente ?
Elle me présente comme son fils. Et puis moi j'ai un malaise, c'est le fait de ne pas me sentir, d'avoir vraiment le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que je ne me sens pas congolais dans le sens où je ne parle pas lingala. J'étais ce qu'on appelle un bunti, ce que les Africains appellent un bunti, c'est-à-dire blanc à l'intérieur et noir à l'extérieur. Thank you.
Donc vous êtes resté combien de temps avec votre mère biologique chez elle?
Je suis resté environ 2 ou 3 ans chez elle. Moi, c'est vrai que j'avais du mal. Et puis, c'est quelque chose qu'on ne m'avait jamais apporté, l'affection, les câlins, les bisous. Elle en demandait, en voulait. Et moi, j'étais vraiment pas dans l'affectif comme ça. Et elle avait l'impression que j'étais, que je ne l'aimais pas, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on rattrape pas 18 ans, même en 2 ans. Il s'est créé des liens. Il s'est créé des liens, mais pas des liens mère-fils.
Donc, comment ça se passait le moment où vous avez décidé de partir?
Ça s'est fait assez... Ça s'est fait assez bizarrement, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui me proposait une colocation sur Paris, et je lui ai laissé un courrier un jour sur la table en lui expliquant que voilà, je voulais qu'on continue à se voir, mais que c'était peut-être une mauvaise idée d'habiter ensemble tout de suite. Et puis voilà, j'ai quitté la maison. J'avais ce besoin de n'exister pour personne, n'être rattaché à rien, ne pas pouvoir être joint. Je vivais égoïstement finalement. Là, j'étais libre, vraiment libre.
Alors à ce moment-là, comment ça se passe les relations avec votre mère biologique? Vous la voyez de temps en temps?
On se voit de moins en moins. Je l'appelle de temps en temps, elle m'appelle, elle me reproche beaucoup de ne pas venir assez la voir. C'est vrai que ma mère était régulièrement hospitalisée, donc je prenais des nouvelles, mais elle était toujours en train d'amoindrir les raisons. Sauf qu'un jour, je me déplace à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, je rencontre un médecin qui m'explique que ma mère a été diagnostiquée comme atteinte du syndrome d'immunodéficience acquise, du sida, en 1997. Donc là, je tombe dénu. Puis il y a plein de trucs qui se chamboulent dans ma tête, puisqu'on a habité ensemble, et on sait que voilà, une brosse à dents... Là, j'avoue, égoïstement, je pense plus à « est-ce que moi je l'ai ?» Et puis je découvre aussi quelque chose qu'elle avait évoqué de manière plutôt évasive, mais je découvre aussi son passé de toxicomane.
Donc à ce moment-là, elle est déjà très malade quand vous la prenez?
Elle est déjà mal en point. En plus, moi, j'avais vraiment le souvenir d'une femme bien en chair, bien bâtie. Et là, elle devait peser peut-être 50 kilos. Et puis voilà, elle avait perdu ses cheveux, enfin vraiment dans un état. Et puis elle folayait un peu. Donc du coup, c'était dur de la voir comme ça. Et puis, moi, je me suis éloigné. Là, j'ai vraiment agi égoïstement, c'est que c'était trop pour moi. Je quittais pas un univers familial aussi anxiogène pour me retrouver là-dedans. Et je crois que là, je me suis protégé. En fait, j'ai coupé les ponts. Et j'y pensais pas et je souffrais même pas de... C'est dire la distance que j'avais mis avec la chose, c'est que j'en souffrais même pas.
Donc cette coupure, ça a duré combien de temps?
Un an. Je la savais en fin de vie. Il y avait beaucoup de familles, notamment au Congo, qui m'appelaient pour m'expliquer qu'il fallait absolument que je sois à son chevet. Parce que là, elle était vraiment... Donc elle était en soins palliatifs, donc vraiment la fin... Et moi, je ne suis pas venu. J'avais pas envie, je me sentais pas le courage, pas les épaules, pas l'envie. Et puis, il y a juste... voilà, j'ai appris qu'elle était décédée. La raison me disait, mais t'as laissé ta mère crever comme ça, c'est vraiment le terme. Sans même un dernier au revoir. Mais le cœur me disait, oui, mais... Ça devrait être une évidence d'y aller. Ce n'était pas évident pour moi. Même si je sais qu'elle m'aimait, Dieu sait si je sais qu'elle m'aimait. Je me suis dit, mais est-ce que c'était pas ça le fardeau à porter après cette enfance? C'est que moi-même, je ne réussisse pas à aimer. Le simple fait de ne pas avoir pu développer de sentiments, je m'en voulais. Mais là, elle était décédée, mais non, j'étais pas triste. C'est affreux à dire, je m'en voulais, mais j'étais pas triste. Le corps a été rapatrié au Congo. Et puis, voilà, le temps se passe. Je l'oublie pas, mais... Son absence ne me pèse pas. Et quelques mois après, je reçois un coup de fil d'une tante de Belgique qui me dit « Bah, Maclore, ta maman t'a laissé quelque chose. » Et je lui dis « Je comprends pas. Je t'explique ça sur Facebook ce soir. » Et donc, elle m'envoie un message en m'expliquant que ma mère m'a légué une maison d'une valeur de 150 000 dollars et 3 lopins de terre dans des provinces du Congo. Et elle ne me l'avait jamais dit de mon vivant. Je trouve ça d'autant plus fort d'avoir vécu toute sa vie pour quelqu'un qui ne lui a jamais rien apporté concrètement. Même l'amour que j'aurais pu lui apporter pendant le laps de temps où j'ai habité chez elle, je ne l'ai pas fait. Et malgré ça, on parle d'amour, mais je pense que là, le terme amour, il prend tout son sens. C'est-à-dire qu'elle n'a fait que me donner. Elle n'a jamais rien attendu de moi. Je sais toujours quand j'étais dans ma famille d'accueil, je sais que quelque part, quelqu'un m'aime. Et je me suis toujours demandé comment, qu'est-ce qui faisait que j'avais toujours cette joie en moi malgré le fait qu'on puisse être aussi méchant avec moi. Mais je pense que c'était elle. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait fort quelque part.
C'était McClure, une histoire en or, un reportage de Sophie Knapp réalisé par Assia Khalid avec un coup de main de François Connac. Merci bien sûr à McClure, à Hélène Castella et à Adela Kaila. Pour des nouvelles de McClure, c'est sur notre site, nous en attendons, car cette émission a été diffusée pour la première fois le 20 mai 2013 et depuis nous n'avons pas de traces de McClure, mais dès que nous en trouvons, nous en mettrons sur notre site à la page des Pieds sur Terre. C'est Aurélie Marcel, attachée de production des Pieds sur Terre, et à cette époque, c'était Sandrine Chaperon. À retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast, sur iTunes et autres, ainsi que sur notre site franceculture.fr, le nouveau podcast original des Pieds sur Terre. Ça s'appelle Des hommes violents. Après Ma fille sous influence, Mes années boum, PMA hors la loi. C'est l'histoire de 12 hommes en colère, 12 hommes qui ont été condamnés pour violence conjugale et qui suivent une thérapie de groupe, qui participent à un groupe de parole. Mathieu Palin a passé 6 mois avec eux. Ils racontent leur trajectoire, leur évolution ou pas. Et ce podcast est nourri des propres réflexions de Mathieu Palin, le narrateur, sur son féminisme et son rapport au mouvement MeToo. N'hésitez pas donc à vous abonner à ce podcast et à mettre des petites étoiles et des commentaires s'il vous a intéressé.